Brigitte.
Yannick.
Tanakil.
Patricia.
Marc.
Gilles.
Bernadette.
Evelyne.
Histoire de mémoire au pas si loin.
J'ai dormi sur un quai de train espagnol, sous un pin. Dormi d'un œil dans un wagon italien, dans la cale d'un bateau. Dormi au cinéma. J'ai dormi au Congo. J'ai dormi dans un arbre, sur le toit d'une maison, dans une île. Dormi sur une chaise à trois pieds, sous une tente. J'ai dormi dans les toilettes, dans un grenier avec des trésors. J'ai dormi pendant une réunion, dans un café, sur la table. Dormi dans le creux de tes bras. J'ai dormi sur la plage. J'ai dormi sur l'épaule de mon fils. J'ai dormi dans mon assiette. À la belle étoile, j'ai dormi au soleil. Dormi dans le coffre d'une voiture. Dormi dans un avion, dans les bois, dans une baignoire. J'ai dormi dedans, dehors, en haut, debout. J'ai dormi dans les bras de Morphée. J'ai dormi dans une étable. Dormi près des cochons. J'ai dormi le matin. J'ai dormi à la maternité. J'ai dormi dans un fossé. Dormi sous un lit. Dormi à l'hôtel. Dans une charrette. J'ai dormi à Londres. Et bien sûr, dormi sous un pont. Je ne sais plus lequel. J'ai dormi sur un morceau de carton. J'ai dormi au creux de terrain. J'ai dormi dans un phare. J'ai dormi à Chicoutimi. J'ai dormi au clair de lune, dans l'herbe. Dormi dans la forêt boréale. J'ai dormi à Padoue. Dormi à la fenêtre. J'ai dormi à côté de toi. J'ai dormi dans les bras de mon chéri. J'ai dormi dans un lit clos. Dormi sur le sable.
C'était à Alençon, dans le département de l'Orne, 61, dans le vieux lycée Alain, nom du philosophe, où j'ai passé quelques années, je suis normande. Cet établissement dégageait quelque chose de grandiose, de solennel, avec toutes ses fenêtres géantes aux petits carreaux. On se prenait déjà au sérieux. Les grands et larges escaliers en bois, les salles de classe géantes, froides, avec un gros poêle en fonte au milieu, des salles avec gradins. Les profs semblaient déjà vieux avant l'heure. Il y avait quelque chose de strict, rigide, de la discipline, quoi. On ne détestait pas. Dans cet établissement où j'ai fait beaucoup de sport, basket, athlétisme, et où j'ai apprécié le français, l'anglais, l'espagnol, où j'ai redoublé ma troisième avec Olivier de Kersauzon, mais on n'a pas le même parcours. Eh bien, ce vieux et magnifique lycée Alain, du nom du philosophe qui avait écrit, entre autres, les propos sur le bonheur, mon livre de chevet, enfin un de mes livres, bien sûr, eh bien ce vieux lycée Alain est devenu le musée ô combien célèbre de la dentelle d'Alençon, dont la robe de mariée de la princesse Grace Kelly de Monaco avait été brodée. Magnifique, n'est-ce pas? Sa vue ne fut pas très longue, certes, mais aussi belle que la dentelle d'Alençon, et ça, c'est magnifique.
L'impasse des Tours Bleues, Pantin, quartier des Courtilières. Durant l'été, notre petite bande de copains se retrouvait au croisement des quatre tours centrales, l'impasse du Pont de Pierre, toujours à la même heure. Autour, du côté nord, un parking pour les jeux de chat et de souris. Du côté est, une grande pelouse verte où nous avions interdiction d'y marcher. D'ailleurs, une pancarte près des bordures nous le rappelait. Et un gardien y rôdait parfois. Au nord des tours, un autre parking, plus fréquenté, où les plus riches des plus pauvres laissaient volontiers leur dernière acquisition, où seulement le week-end, ils astiquaient leur belle voiture avec des seaux remplis de produits moussants. Et à l'ouest, un terrain de football, un terrain vague et une grande colline aménagée d'un bac à sable. Nous avions donc le choix pour y faire quelques petites bêtises, mais pas trop. Et une fois par semaine, vers 16h, nous étions interpellés par une petite musique bien connue de la bande et chacun détalait chez lui pour réclamer quelques pièces de monnaie. C'était le marchand de glace. Nous filions ensuite tranquillement dans un coin connu que de nous, enfin je crois, notre impasse pour y déguster notre glace. Dans le pire des cas, nous avions une glace pour 4 ou 5. Mais les jours heureux, chacun appréciait la sienne et l'on faisait durer à s'en lécher les doigts. Le gymnase Régolier, Pantin, même quartier. Il se situait près de 2 écoles, d'une grande place du marché et derrière un immense parc verdoyant. Il accueillait presque tous les enfants du quartier le mercredi après-midi. Mais 2 soirs par semaine, il était réservé aux jeunes et aux moins jeunes sportifs. Les entraînements étaient plutôt sérieux, encadrés par des profs de gym ou parfois par des athlètes plus grands que nous. Un gardien s'occupait de l'entretien des lieux. Il y avait donc une discipline pour le rangement des agrès et matériels divers, tapis, tremplins, protections. Ce que l'on faisait en scandant souvent « Oh, is ! Oh, is ! La saucisse !» Chaque jour, le gardien arrivait le matin très tôt pour ouvrir le gymnase pour la journée. Il restait assis presque toute la journée après avoir fait son ménage du matin. Parfois, il était bien rouge et cela nous faisait papoter dans les vestiaires sur ce qu'il avait pu boire. De temps en temps, il faisait une petite sieste dans son minuscule bureau et cela nous faisait rigoler. Et quand il ouvrait un œil, nous ne comprenions pas ce qu'il essayait de nous dire et là, on partait en fou rire. Un soir, en arrivant, le gymnase était fermé et un ragot circulait déjà. Il était rentré la veille au soir sur sa mobylette. Ou c'est plutôt sa mobylette qu'il avait ramenée chez lui. Et il était tombé sur le trottoir.
Le Martinet des Logécos. Mes parents ont vécu quelques années au 2e étage d'un grand bâtiment de HLM, dans un appartement chauffé au charbon, le comble du modernisme, grande cuisine, une salle de bain avec douche. Grand-mère ayant fort à faire pour garder notre petit frère, bébé, avec ma sœur, plus jeune d'un an, moi je devais avoir 4-5 ans, donc nous allions seuls à l'école, à quelques centaines de mètres, quelques rues plus loin. Il paraît que je prenais ma tâche d'aîné très à cœur. Alors que Mimi, ma sœur, ne risquait rien. Une intrépide qui n'avait pas froid aux yeux. La preuve, elle avait signé au crayon de papier pour les parents une observation pour écart de conduite. Je m'en rappelle d'autant mieux à cause des cris qu'elle avait sous la fessée au martinet. Le père y avait mis tant d'ardeur que le pauvre instrument s'était cassé sous les coups. Ma mère avait veillé à scrupuleusement ne pas le remplacer.
J'ai une 20aine d'années. Je suis à Casa au Maroc, chez mon copain, et je suis invitée à partager un couscous dans sa famille. Un superbe plat trône au milieu de la table. Un bol d'eau circule pour le lavage des mains. Une cuillère est posée à mon attention. Et chaque membre de la famille est installé autour du couscous. Chacun prend devant soi un peu de semoule et de légumes avec les mains. Je fais de même avec ma cuillère. La semoule et les légumes sont délicieux, mais je vois des morceaux de viande atterrir devant moi. Je réalise que chacun sacrifie le meilleur de leur repas pour moi, mais je n'aime pas la viande. Tous les dimanches, à la résidence de l'INSA sur le campus de Beaulieu à Rennes, la communauté burkinabé préparait dans une chambre une marmite de poulet à la dakatine, rare recette que je pratique encore. Morceaux de poulet et oignons frits dans l'huile de palme, puis carottes, concentré de tomates et indispensable magicum. Puis, vers la fin de la cuisson, fameuse dakatine ou beurre de cacahuète pour les non-initiés. Étudiants africains et étudiantes provinciales, nous savourions ce plat dans une ambiance animée très conviviale. En vacances sur l'île de la Réunion, sans beaucoup d'argent et sans voix, je m'installais sur la plage, seule, face à la mer, et je me régalais de mon repas quotidien. Une boîte de thon, un avocat avec du citron et une pincée de sel, une noix de coco dont je buvais le lait puis croquais la chair, tous ces produits frais achetés le matin au marché. En hiver à Saint-Jean, mon village natal, régulièrement nous nous réunissions entre copines autour d'un caquelon de fondue savoyarde. C'était au tour de Marie-Annick de nous recevoir dans son chaleureux studio tout en bois. Au moment d'allumer le réchaud, une grande flamme a jailli. De l'alcool à brûler était tombé sur la table et prenait feu. Après un moment de panique, notre hôte a eu le bon réflexe de sacrifier son torchon pour étouffer les flammes. Nous avons pu nous régaler de la fondue. L'année dernière, au mois de juin, apéro entre copines. Nous nous sommes réunis à trois chez moi, avec chacune une spécialité à concocter sous l'œil d'une caméra. Et oui, nous allions participer à l'élaboration d'un livre « Bien manger à Pantin ». Cocktail surprise, tarte tomate, crudité, sauce roquefort, tzatziki, salade de crevettes, rillettes de thon, brie, clafoutis aux cerises, et j'en oublie sans doute. Tous ces mets étaient longs à cuisiner. Entre le temps de préparation, les photos et surtout les rigolades, le beau soleil du soir a décliné pour laisser place à la lune. Le repas s'est fait aux lueurs de la bougie. Mais je ne pense pas que Laura, notre photographe, nous en ait tenu rigueur pour ces heures supplémentaires.
Une fois n'est pas coutume, ce soir-là, c'était sorti avec ma marraine Elisabeth et une amie à elle. Musique, concert, du rap, la musique du moment, avec NTM, IAP, IAM et Public Enemy. Je me souviens notamment de mes voisines dans les gradins qui se déhanchaient et dansaient de façon endiablée, moment privilégié sans doute pour se lâcher. Il y avait même quelque chose de l'ordre du sacré quand je les voyais. La muse de la danse était présente ce soir-là, c'est sûr. Absente le reste de l'année, ça y est, j'avais trouvé l'occasion de profiter de sa présence. Après, c'était resto, dans un boubou africain. La devanture n'était pas terrible, mais qu'est-ce qu'on a bien mangé? Je me souviens principalement de la viande de porc épic. Ce fut un moment rare et heureux. Une autre expérience culinaire, ce fut ces moments passés avec mon prof de guitare de l'époque, et sa femme, ma mère aussi, dans une pizzeria située en plein centre de ma commune de naissance, les Lilas, près du métro. Le lieu était facilement identifiable et mémorisable. Nous avons passé plusieurs moments conviviaux là-bas à manger des pizzas, puis des grecs, quand les propriétaires avaient changé. Le prof de musique et sa femme étaient alors partis en Bourgogne. Ce restaurant fut un repère dans les années qui ont suivi pour des repas familiaux, dans la bonne humeur. Enfin, une autre expérience culinaire mémorable était les repas avec ma mère qu'elle préparait consciencieusement et avec amour quand j'étais adulte. Il y avait quelque chose de l'ordre du rituel, les aliments étaient bons et souvent ils étaient bio. Il y a des moments inoubliables pour moi à ces occasions. C'est quand je n'arrivais pas toujours à trouver le chemin de l'appartement de ma mère, à aller savoir pourquoi, et que celle-ci choisissait de venir chez moi rue Le Sceau cuisiner pour sauver l'histoire. Petite défaite pour moi, assister, mais content malgré tout de la voir et de manger un bon repas, l'histoire était sauvée.
quand je me rendais de Guillotière, chez moi, à Bellecour, les beaux quartiers, sous la queue du cheval, qu'ils disent, j'aimais emprunter les quais de Rhône, je voyais toujours les mêmes éléments, et j'aime l'habitude. Le skatepark, le manège, le bouquet hideux, la piscine extérieure, l'hôtel Dieu, je reconnaissais bancs et arbres, et j'avais des anecdotes pour la plupart. Je me plaisais, sur l'aller ou le retour, à marcher jusqu'au pont ou la passerelle suivante, et revenir sur les quais où j'avais un jour glissé dans l'eau croupie de ces fontaines au sol. Des années plus tard, je visite mon frère. Je profite de l'occasion pour réemprunter les routes tant parcourues. J'y découvre une nouvelle piste cyclable, la piscine à rouvert. Je vais y nager. Le pont Wilson trône toujours, plus beau que les autres, au-dessus de l'eau lyonnaise. Une rue par là est passée à sens unique. Je reconnais mes repères, le skatepark, la piscine, l'hôtel Dieu. Mais ils ont subtilement changé, me laissant une impression bizarre. La ville est toujours là, c'est moi qui n'habite plus ici. Nous nous sommes séparés.
Une tranche de travail. 1980, enfin je crois. Ça fait 4 ans que je travaille comme aide comptable dans une société japonaise, Mitsubishi, dans le 8e arrondissement, quartier chic, pas très loin des Champs-Élysées. Tous les matins, j'emprunte le métro, la ligne 5, la ligne 2, je descends à Terne. Encore un quartier très commerçant, quelques minutes à pied, pour arriver devant un bâtiment assez grand, de 8 étages, si je me souviens bien. À l'entrée, un grand comptoir d'accueil et 2 énormes ascenseurs. Sur le côté, la liste des sociétés desservies par cet ascenseur avec l'étage correspondant. Le hall est plutôt standing, comme on dit aujourd'hui. Souvent, je croise les mêmes personnes qui travaillent dans cet immeuble. Et la valse des bonjours commence. J'arrive au 7e. J'entends déjà le silence. Moquette au sol. Des portes vitrées souvent s'ouvrent automatiquement. Un petit bureau d'accueil avec 2 charmantes hôtesses. Bonjour. Sur un des côtés du tableau, la pointeuse. Je prends un large couloir et au bout, sur la gauche, l'entrée des services. Des services compta, achat et import-export. Chacun séparé par des placards à hauteur d'homme. Bonjour, bonjour. La compta, c'est au bout à droite. Un espace rectangulaire de 8 bureaux. 6 bureaux face à face, dans la longueur, et 2 bureaux dans chaque largeur, ceux des chefs japonais. Bonjour, monsieur Shida. Bonjour, monsieur Sord. Bonjour, Morato-san. Bonjour. Bonjour à chaque collègue. Puis de nouveau le silence. Mon bureau est bien rangé. Chaque soir, il doit être nickel. La calculatrice éteinte, la bannette des factures à payer d'un côté, la bannette des règlements effectués de l'autre. À côté du bureau du chef comptable, monsieur Sord. Tous les chéquiers dans un coffre derrière lui. De l'autre côté, une collègue dans son bocal, c'est la caissière comptable. Tous les responsables japonais faisaient la queue toute la journée pour se faire rembourser leurs notes de frais de la veille ou parfois de la semaine. Et derrière moi, un bureau vitré, également fermé par un code et insonorisé. Le petit service informatique avec 2 perfos Verif sur 3742 et un IBM 32 avec un chef d'exploitation aux cheveux longs, mais attaché. Le frimeur, mais adulé par les Japonais. Des kilomètres de listing sortaient chaque jour de l'imprimante qui était distribuée sur chaque bureau de tous les services de la société. Le seul endroit où on avait le droit de parler, c'était la cafétéria, où se trouvait tout le monde et de temps en temps les chefs japonais. Mais là, le silence refaisait surface, ou presque. L'interruption du midi était attendue. J'allais avec quelques collègues déjeuner dans les environs, mais souvent nous déjeunions à la cafétéria. Chacun avait amené sa gamelle et on finissait par un café. Il y avait aussi des petits salons de détente, seulement pour les chefs. Mais quand ils étaient en déjeuner d'affaires, nous allions nous installer en les imitant et en s'affalant sur leur canapé. Une indique à l'accueil nous avertissait avant leur arrivée et chacun retournait à son bureau, tête baissée, dans les papiers, sans un bruit.
Brigitte.
Yannick.
Tanakil.
Patricia.
Marc.
Gilles.
Bernadette.
Evelyne.
Histoire de mémoire au pas si loin.